Matière à penser, Frédéric Worms.
Matière à penser, ce soir notre troisième rencontre autour des conditions du débat. Pour débattre, il faut savoir de quoi l'on parle. Il faut du savoir, mais il y a parfois aussi de l'ignorance, et même parfois de l'ignorance délibérément entretenue par certains. Ce soir, donc, notre troisième rencontre sur les conditions du débat autour du savoir et de l'ignorance avec Mathias Girel, qui est maître de conférence à l'École normale supérieure et qui est devenu progressivement un spécialiste de l'ignorance. Bonsoir Mathias Girel.
Bonsoir Frédéric Worms.
Merci beaucoup d'être venu ce soir. Je vous ai présenté de manière un petit peu provocatrice. Vous venez de publier un livre, enfin il y a déjà un an, intitulé « Science et territoire de l'ignorance ». Mais comment est-ce que vous êtes devenu, j'ai peut-être un peu exagéré, mais un spécialiste de l'ignorance, ou du moins qu'est-ce qui vous a amené à travailler sur l'ignorance? C'est quand même un drôle de sujet pour un philosophe en général d'ailleurs.
Oui, c'est vrai que si on imagine un CV avec comme spécialité ou compétence principale l'ignorance, bon, ça peut surprendre et c'est pas forcément le meilleur atout. En fait, bien entendu, il s'agit d'avoir un autre regard sur la connaissance. Ce qui m'intéresse, c'est bien la connaissance, la manière dont elle se construit dans et par la recherche. Et dans une phase précédente, je m'étais intéressé aux pragmatistes, aux philosophes américains pragmatistes, qui eux s'intéressaient à l'enquête, à la recherche, la manière dont on construit de la connaissance dans et par l'enquête. Et dans un deuxième volet de mes recherches, je me suis intéressé à la manière dont la connaissance peut être sapée, fragilisée, détruite parfois ou disparaître.
Donc finalement, c'est pas un souci d'abord politique qui vous y a amené. Vous n'avez pas commencé par votre inquiétude sur le débat public, par exemple autour de questions scientifiques qui sont devenues progressivement un de vos objets de travail, ni même sur le débat démocratique en général. C'est vraiment sur la théorie de la connaissance et finalement avec son revers qui est l'ignorance comme revers de la connaissance en général, avant d'arriver au débat politique comme tel.
Chronologiquement, mais disons le moment où disons cette deuxième question ou cette deuxième salve de questions m'est apparue comme plus importante, je pense que c'est précisément un moment où je me suis remis à réfléchir à la valeur de la connaissance comme bien commun. Et il me semblait que disons que mes recherches précédentes m'amenaient tranquillement vers cette question-là, qui était devenue un enjeu politique et citoyen important en France. Aux États-Unis, dans les années 2000, on parle beaucoup d'une guerre des républicains contre la science. Et donc ma question, c'était de savoir de quoi on s'inquiète quand un savoir disparaît, quand il est fragilisé. Quelle est la nature éthique, politique, citoyenne, démocratique de notre inquiétude? Est-ce qu'elle est seulement épistémologique, c'est-à-dire est-ce qu'elle se rapporte uniquement à la connaissance, ou sinon, enfin, quel type de valeur engage-t-elle?
Donc il y a quand même eu une rencontre, une intersection finalement entre vos intérêts personnels d'un côté et un état du débat qui tout à coup fait, la science arrive tout à coup sur le terrain du débat public, et par ailleurs vous travaillez sur ce qui produit la connaissance dans la science, et ça c'est pour vous cette rencontre s'est imposée finalement.
Oui, elle s'est imposée ensuite au gré de rencontres tout simplement avec des savants, des scientifiques dans leur laboratoire ou ailleurs. J'ai eu l'occasion d'organiser des activités là autour liées aussi au débat autour des sciences et des technologies, donc ça m'a rendu plus sensible à certains enjeux scientifiques et technologiques qui sont au cœur de nos décisions politiques. Et là encore, pour revenir aux auteurs sur lesquels j'ai beaucoup travaillé, John Dewey et les autres, donc les auteurs américains, c'est des auteurs qui se méfient un petit peu quand on sépare trop vite le domaine des faits et des valeurs. Donc j'étais plutôt à l'aise dans ce croisement des questions, si vous voulez.
Mais alors, ce qui est très frappant, évidemment, c'est que vous travaillez vraiment sur les utilisations du savoir dans le débat public, parfois pour le nourrir légitimement, parfois au contraire pour masquer le savoir et produire délibérément de l'ignorance pour fausser le débat public. Et là, votre origine, j'allais dire théorique, c'est ces auteurs pragmatistes dont vous parlez, ils vous aident parce qu'au fond, vous le montrez très bien dans le premier chapitre du livre sur l'ignorance, ce sont eux qui montrent que la vérité et l'ignorance ne sont pas seulement des faits objectifs, mais sont des productions humaines finalement, sont l'objet d'un travail concret. En tout cas, font l'objet de pratiques concrètes, et ça permet déjà de désacraliser un petit peu ce débat vérité-ignorance, avec des risques d'ailleurs, parce que quand même on a besoin de critères.
Oui, alors, de manière à ce qu'il n'y ait pas de contresens là-dessus, moi, de ce De ce point de vue-là, je suis plutôt réaliste. Je pense que la science et d'autres disciplines nous conduisent à tenir un discours vrai sur la réalité.
Il y a des choses qui existent. Il y a du discours vrai, il y a quelque chose.
Ouais. Oui, exactement. Il y a du boson de Higgs où il n'y en a pas. Il y a des résultats scientifiques qui permettent de construire ensuite dessus certaines technologies, d'envoyer des sondes à l'autre bout du système solaire. Donc, de ce point de vue-là, je suis réaliste. En revanche,
il y a des faits, quoi, finalement.
Il y a des faits et on peut dire des choses au sujet des faits. Et on peut dire des choses vraies au sujet des faits. Mais nos enquêtes ne se font pas sans nous. Pour prendre l'exemple du boson de Higgs que je prenais à l'instant, pour l'observer, 40 ans après ça, le fait qu'il ait été prédit, il faut construire un accélérateur, il faut que des pays se mettent ensemble, c'est impossible dans une Europe en guerre, par exemple. Et donc, finalement, il y a une sorte de fragilité de l'enquête scientifique qui dépend de moyens humains, d'une certaine condition de stabilité politique, de choix stratégiques de la part des États, de choix de financement. Et je suis assez sensible à cette fragilité des résultats de la recherche scientifique, qui, elle, à mon avis, est très dépendante des institutions, des choix que les hommes font, même si on aurait très bien pu n'observer le boson de Higgs que 40 ans ou 100 ans ou 150 ans plus tard, ça n'aurait rien changé quant à sa réalité et son existence, si on veut employer le terme.
Mais d'ailleurs, Mathias Girel, il me semble que peut-être on pose mal le débat, j'allais dire pas vous il y a l'instant, mais dans le débat public, quand on oppose la vérité et l'ignorance, ou le fait et le fake. En fait, est-ce que l'opposition n'est pas pour vous, plutôt qu'entre le fait et le fake, entre la vérité et l'ignorance, entre le savoir et l'ignorance, c'est-à-dire l'état de, finalement, entre, non pas la vérité objective, qui est ce qu'elle est, mais ce que nous en savons, comment ça elle accède à nos esprits, comment nous la produisons comme un état aussi social, d'accord sur ce qui est vrai, un savoir maîtrisé, réflexif, et comment d'autres peuvent, sur fond d'un certain savoir, parce que vous montrez très bien qu'il n'y a pas d'ignorance en général, être ignorant, c'est toujours dans un contexte par rapport à un certain état du savoir.
Oui, il y a une dimension contextuelle de l'ignorance. On est ignorant de certaines choses par rapport à un certain état de la science et du savoir. Et évidemment, ça donne des sens très différents aux ignorances. Donc, il y avait un côté aussi typologique dans mon travail, montrer que, par exemple, un physicien qui aujourd'hui ne saurait rien au sujet des atomes et des électrons, c'est pas la même chose que quelqu'un qui dit sur la matière noire, nous n'avons pas encore le fin mot. Les deux ignorances ne se valent pas.
Est-ce que vous pouvez préciser pourquoi?
Parce que je pense que pour la matière noire, la question est encore ouverte, même s'il y a beaucoup de recherches. Alors que sinon, le physicien ignore quelque chose qui fait partie de son domaine ou qui fait même partie de sa formation au niveau de l'enseignement secondaire.
Oui, vous prenez un autre exemple, par exemple, dans votre livre, de façon très drôle, vous dites un paysan savoyard du XVIIe siècle ne savait pas connecter une imprimante, mais c'est pas une ignorance, ça relève d'un autre mode d'absence de savoir. Mathias Girel.
Oui, c'est pas quelque chose qu'on pourrait lui reprocher ou même lui attribuer une ignorance à ce sujet-là, c'est loufoque. C'est-à-dire que je pense qu'il faut se rapporter à ce que peuvent faire les gens et la manière dont ils peuvent appliquer leur savoir à un moment donné. Et à partir du moment où on se donne cette perspective, la dimension de l'ignorance peut être comprise comme des formes de lacunes ou d'absence, déjà dans la texture de notre savoir, et ça demande beaucoup de stratégie, d'habileté pour arriver à repérer des lacunes, des absences dans le savoir, des choses que nous ne savons pas et que nous pourrions savoir en l'état actuel.
L'ignorance, c'est toujours sur le fond d'un problème précis avec un contexte et un savoir donné. Et là, on peut dire, lui, il ignore quelque chose. Ignorer, c'est sur le fond de ce contexte-là.
Je pense, parce que sinon, l'ignorance inconsciente d'elle-même, on peut l'attribuer à d'autres personnes, mais ces personnes-là n'en sont pas conscientes, ou on peut se l'attribuer rétrospectivement. En disant, à cette époque, je n'avais absolument pas compris, je n'étais absolument pas au fait de la situation. Et je pense que l'ignorance dont on peut parler, sur laquelle on peut échanger, voir qu'on peut penser, qu'on peut intégrer à des choix, c'est déjà une ignorance qui, d'un certain point de vue, est consciente d'elle-même et qu'on peut faire apparaître. Il n'y a pas énormément d'autres solutions à partir du savoir et de ce que peut le savoir.
Pour préciser d'abord le concept d'ignorance, donc c'est quelque chose qu'on peut savoir dans un contexte donné, mais est-ce que ce n'est pas aussi quelque chose qui a un intérêt parfois vital ? C'est-à-dire quand l'ignorance qu'on peut reprocher à quelqu'un, est-ce que ça n'est pas aussi quelque chose qu'il devrait savoir dans un certain but pratique ? Et là, est-ce que le pragmatisme n'est pas aussi utile pour montrer que il y a des ignorances sans importance, si j'ose dire, et puis il y a des ignorances qui ont un véritable enjeu, qu'il faudrait qu'une certaine pratique nous la fasse dépasser, on peut dire c'est l'éducation ou la science, puis il y a d'autres pratiques qui peuvent exprès nous la masquer, Mathias Girard.
Oui, alors vous avez tout à fait raison, Frédéric Worms, sur ce point, sur cette dimension normative en fait de l'ignorance. Effectivement, il y a des choses que nous sommes censés savoir de par notre éducation, de par les institutions qui nous entourent, qui nous ont formés. Donc de ce point de vue-là, il y a des ignorances coupables, et il y en avait déjà au Moyen Âge dans la pensée théologique. Enfin, on distingue l'ignorance, disons des indigènes aux Amériques qui n'ont pas connu le christianisme, qui en sont totalement ignorants, et puis c'est pas du tout pour eux la même ignorance que en Europe, quelqu'un qui vivrait dans l'oubli total de la religion.
Vous renvoyez même au dictionnaire de théologie catholique en disant que sur la rubrique ignorance, je crois que c'est l'ignorance coupable, justement.
Oui. Donc il y a cette nuance-là, il y a bien des savoirs que nous sommes censés posséder, et je pense que cette dimension pratique, elle intervient dans beaucoup de domaines. D'un point de vue politique, il y a beaucoup de décisions démocratiques, politiques aujourd'hui qui suppose, disons, une sorte de culture minimale, culture scientifique minimale, si on veut pouvoir maîtriser, disons, des grands choix scientifiques et technologiques qui sont au cœur des décisions politiques aujourd'hui, qu'on pense à l'énergie, à la santé, à toutes ces choses-là. Donc il y a cette dimension pratique, et il y a aussi, j'avais proposé de penser ça dans l'ouvrage, une forme d'ignorance qui est souvent moins analysée, disons, par les commentateurs, et qui se manifeste quand nous ne sommes plus capables de mobiliser un savoir ou une connaissance pour faire de nouvelles prédictions, pour résoudre des problèmes.
Par exemple, si vous avez un exemple...
C'est une question que nous pouvons tous nous poser par rapport à notre formation secondaire, c'est-à-dire quelle proportion de ce que vous avez appris, de ce que vous avez su, vous seriez capable de mobiliser aujourd'hui pour résoudre des problèmes ou pour produire de nouvelles connaissances. Et je pense que si on est imprudent, on peut compter ces informations auxquelles nous avons été exposés comme des choses que nous savons, alors qu'en fait, si on a une définition plus exigeante du savoir qui recouvre cette dimension pratique, c'est-à-dire la manière dont on peut mobiliser cette information, ces connaissances pour résoudre de nouveaux problèmes et produire de nouvelles connaissances, eh bien, d'un seul coup, elle tombe plutôt du côté de l'ignorance.
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on croit savoir, mais qu'on ne mobilise pas, et finalement, on devrait s'en servir pour réagir aussi à des mensonges possibles, à des manipulations possibles, et on se rend vulnérable par là, Mathias Girard.
Mais je pense qu'on se rend vulnérable. Ensuite, on peut prendre en compte des stratégies d'autres acteurs, effectivement, qui eux perçoivent tout à fait cette dimension pratique de la connaissance. C'est-à-dire que pour produire de la connaissance, faut pouvoir interpréter de l'information, faire des inférences, tirer des conclusions. Ce sont autant d'opérations pratiques qu'on peut compliquer et voir qu'on peut enrayer totalement. Peut-être qu'on pourra le développer.
Oui, je crois, Mathias Girard, qu'on voit déjà en vous écoutant qu'on a besoin sur ces notions. Savoir, ignorance, de distinction très précise. Il y a de l'ignorance qui n'en est pas. Je ne peux pas... Il y a des choses que je ne peux même pas ignorer, parce qu'elles ne sont tout simplement pas connues du tout. Et puis, il y a de l'ignorance coupable, voire dangereuse. Et à la fin de votre livre, et ça, c'est l'enjeu peut-être le plus brûlant, vous dites qu'il y a des vrais et des faux complots, des gens qui entretiennent l'ignorance, en effet, délibérément, et des complots qui n'en sont pas non plus. Et il faut pouvoir aussi démonter des faux complots. Mais quand même, vous soutenez, Mathias Girard, de progressivement, vous êtes allé de plus en plus vers des enjeux politiques. Oui. Vous soutenez quand même qu'il y a ce que vous appelez, avec tout un courant de pensée là aussi américain, de l'ignorance entretenue, délibérément produite dans le débat public. On pense que le débat public passe par l'information, puis un débat, informé sur l'information. Et là, vous dites au contraire, il y a des pratiques délibérées pour entretenir l'ignorance du public.
Oui, alors c'est la proposition selon laquelle l'ignorance n'est pas simplement un état, mais peut dans certains... cas être aussi un effet. Et ça, c'est pas une nouveauté, c'est pas quelque chose qu'on a découvert aujourd'hui. Une grande partie de la critique des Lumières suppose que certaines puissances ou institutions ont entretenu des superstitions ou entretenu l'ignorance. Donc on a ça chez Voltaire, on a ça chez Hume, donc c'est pas nouveau. En revanche...
Oui, c'est ça le mot d'ordre des Lumières, c'était « ose savoir ».
Ose savoir. Et
parce qu'on vous le cache des choses.
Il y a une audace, effectivement, du savoir qui peut déranger, qui peut être inconfortable pour certaines institutions dans certains cas. Et donc, plus prosaïquement, dans les exemples, les domaines d'histoire des sciences qui m'ont intéressé, effectivement, j'ai pu étudier, notamment en donnant, par exemple, l'édition française du gros livre de Robert Proctor, Golden Holocaust, sur l'industrie du tabac, étudier comment certains acteurs, effectivement, cherchaient à compliquer la production de savoir en instituant des controverses qui peuvent être artificielles, en tenant certains éléments secrets, c'est-à-dire en les faisant disparaître de l'espace public, en cherchant à faire accepter des normes de certitude ou des niveaux de certitude absolument exorbitants à leurs adversaires, ce qui complique là aussi le fait d'aboutir à des conclusions. Et donc, on a pu mettre le doigt sous toute une forme d'ingénierie, de création de l'ignorance, dont j'essaie de donner quelques typologies dans le petit livre que vous avez cité, et qui sont autant de manières de compliquer la production du savoir, ce qui veut bien dire que ces acteurs-là prennent tout à fait acte de la dimension pratique de production des savoirs, puisque précisément ils appliquent leur action à la stratégie qui consiste à la freiner, à l'empêcher, voire à la rendre confuse, douteuse. Et donc, ces informations, ça peut être le sujet de certains toxiques, là j'évoquais le tabac, ça peut être l'amiante, ça peut être la silice, ça peut être des choses comme ça, valent comme information, mais peut-être plus comme connaissance, c'est-à-dire que les gens qui sont exposés, décideurs ou citoyens, ne savent plus quoi faire de ces choses-là.
Mais alors là, Mathias Viral, il faut déplier un petit peu le sujet, parce qu'on va arriver plus tard sur des sujets, disons, directement politiques. Qu'est-ce qu'on sait des intentions des gouvernants, par exemple, les théories du complot, les théories du soupçon. Et là, on est sur un sujet qui semble à la fois moins controversé, mais qui peut être en réalité plus dramatique, c'est-à-dire une contestation de la science par une autre revendication scientifique. Et au nom de certains intérêts économiques, c'est-à-dire, si j'ai bien compris, c'est-à-dire l'industrie du tabac entre dans le débat sur la nocivité du tabac, le débat médical, scientifique. Certains savants, quand même, montrent, je pense que c'est quand même la vérité, on est les faits, cherchent à nous faire comprendre que le tabac est dangereux pour la santé, peut produire du cancer, par exemple. Et puis, voilà que des industries du tabac, au lieu de le démentir simplement, cherchent à produire une science disant que c'est autre chose qui est vrai.
Oui, mais c'est ce qu'on dit souvent, c'est à contrer la science à l'aide de la science. Alors, des deux côtés de l'expression, la science n'a pas forcément la même qualité, mais toute cette entreprise de guérilla épistémologique, elle s'appuyait sur des publications.
Guérilla épistémologique.
Bah oui, parce que c'est des sortes de guerres de position comme ça, où on avance, on recule, et faudrait pas le penser uniquement comme une sorte de mensonge éhonté ou de, extérieur à l'entreprise scientifique. Évidemment, une grande partie de l'énergie a été consacrée à mobiliser de vrais chercheurs, de vrais savants.
Les vraies blouses blanches.
Oui, qui travaillaient du coup sur d'autres causes, par exemple du cancer du poumon, des maladies cardiovasculaires, et qu'on peut faire de la bonne science dans ce domaine, mais simplement qui détournaient de la cause principale.
Oui, donc l'idée, c'est de dire, il y a des cancers du poumon, mais ils peuvent être dus à autre chose que le tabac, et ça permet d'effacer la causalité. Du tabac.
Ça permet au moins de créer une controverse, de dire il y a plusieurs causes. Est-ce que vous êtes sûr et certain que vous avez bien identifié la cause principale? Alors là, on a parlé du tabac parce que c'est le domaine le plus documenté, sur lequel il y a le plus d'archives, et c'est une industrie qui savait dès le départ qu'elle écoulait un toxique. Mais petit à petit, on est en train de mettre la main, pour ce qui est de l'amiante, pour ce qui est de la silicose, sur des archives équivalentes. Et ça se comprend bien, dès qu'il y a un intérêt absolument impérieux qui dicte, si vous êtes un grand acteur de ce domaine-là, qui dicte
votre industriel,
accès à l'industriel, et que ça conditionne complètement votre accès au marché, bon, mais évidemment, ça peut être un moyen comme un autre. Enfin, il n'y a rien de magique ou d'étonnant là-dedans.
Si, quand même, Mathias Viral, on pense tous que, malgré tout, quand un fait est avéré, qu'il a des conséquences pour la santé, qu'il a des conséquences pour des éventuelles politiques publiques, et bientôt ça va être quand même à l'échelle de la planète et du climat, on pense tous quand même qu'il y a, c'est quand même étonnant que des intérêts particuliers puissent amener à produire des fausses controverses pour masquer les enjeux.
Oui, j'observerai simplement que dans notre pays, récemment, certains ont pu se demander si le vin était un alcool comme les autres. Parce que finalement, on a tout ce débat sur le tabac et sur l'alcool, on pourrait avoir le même. Et en France...
Donc là, vous, votre idée, c'est que quand on pose une petite question qui n'a l'air de rien, comme ça, on dit finalement, le vin, c'est pas un alcool comme les autres, c'est un plaisir ou c'est anodin. En fait... On brouille les pistes, c'est-à-dire après, les savants vont courir après ce faux débat, et le faux débat masque le vrai débat.
Ce que je pense, c'est qu'il y a aussi des savoirs qu'on préfère ignorer, enfin des choses que l'on sait et dont on préfère ne pas tenir compte. Et voilà, en France, c'est tout à fait intégré à un mode et un style de vie. Pourtant, finalement, on s'interroge. On peut réagir très très fort à des débats qui entourent certaines substances phytosanitaires, etc., avec des risques, mais qui sont assez faibles. Et puis finalement, voilà, cette chose qui est un toxique dès la première goutte, en fait, on choisit de pas trop s'en occuper. Donc il y a sans doute de l'ignorance qui a été construite ou fabriquée, et puis il peut simplement y avoir un désintérêt ou le fait que nous ne souhaitons pas trop en savoir là-dessus.
Oui, mais enfin, bon, de même qu'on dit nul n'est censé ignorer la loi, peut-être que nul n'est censé ignorer la science et la santé, et en tout cas, c'est le seul moyen de la maîtriser. Alors, je vois que vous avez une indulgence pour la fête, pour le vin, pour tout ce qui se justifie quand même par un art de vie. Vous nous avez amené à apporter un morceau de musique, en effet, un peu endiablé Mathias Girel, pour un épistémologue, ça va surprendre nos auditeurs.
Frédéric Worms.
Matière à penser, toujours notre troisième rencontre autour des conditions du débat. Ce soir, la science et l'ignorance dans le débat public avec Mathias Girel, maître de conférence à l'École normale supérieure, avec qui nous venons de parler du savoir et de l'ignorance sur les produits toxiques, sur notre santé. Et nous venons d'entendre une rumba mystique, Mathias Girel, où il est question de cacher quand même des secrets au public. Donc il y a quand même un lien entre ce morceau et notre sujet de discussion, Mathias Girel.
Oui, alors je l'avais proposé tout simplement parce que je trouvais que c'était une très belle chanson, magnifiquement arrangée, et que Arthur H a énormément de talent et une très belle voix. Mais effectivement, si on écoute les premières paroles sur ce thème musical qui va s'installer petit à petit, il y a l'idée qu'il y a quelque chose qui se cache. Donc ça peut nous amener vers la suite de l'entretien. Et il y a quasiment une métaphysique. Rien ne tient.
Oui, en effet, ça nous amène au cœur du sujet, Mathias Girel. Vous êtes comme si vous vous approchiez peu à peu des sujets les plus brûlants de l'époque. On m'a rappelé que vous partiez d'une philosophie de la connaissance que vous étudiez toujours, évidemment. Vous êtes arrivé vers le débat public sur la science. Déjà, là, on rencontre certains intérêts qui veulent entretenir au moins de l'ignorance, pas forcément mentir, mais brouiller les pistes. Et puis, on a l'impression donc que finalement, vous découvrez des quand même, alors est-ce qu'il faut dire complot, vous me direz, en tout cas des entreprises délibérées pour produire de l'ignorance, et là, on arrive sur le débat contemporain aujourd'hui, sur les fake news, sur les soupçons, sur les soupçons de conspiration, le conspirationnisme ambiant, et là, ce que j'admire beaucoup dans votre livre, Mathias Girel, c'est que, spontanément, moi-même, comme beaucoup d'autres, on a envie de dire, non, il n'y a pas de complot, ce sont des fictions, c'est ceux qui parlent de théorie du complot qui sont dangereux, voire conspirationnistes, et vous, comme vous avez rencontré, finalement, j'allais dire, de vrais complots, vous devez réfléchir à ce qui distingue un vrai d'un faux complot. Et à la fin de votre livre, finalement, vous vous battez avec cette idée. C'est pas seulement complot ou mensonge, c'est vrai ou faux. Et là, on a les moyens, d'après vous, Mathias Girel, de distinguer.
Oui, c'est exactement ça, Frédéric Worms, sur le quatrième chapitre de l'ouvrage. J'essayais de voir comment on pouvait identifier, critiquer des choses qui sont des complots. Et il y en a bien dans l'histoire des États, dans l'histoire diplomatique, dans l'histoire de certains services. On ne peut pas les traiter uniquement comme des coïncidences. Et donc, il faut arriver à faire droit à ce concept. J'essayais de comprendre ce qui inquiète quand on dit que quelqu'un est un adepte des théories du complot. Et de voir s'il y avait une différence entre expliquer quelque chose par un complot, c'est-à-dire en gros par une entente intéressée et explicite d'un petit groupe en vue d'une certaine fin répréhensible et à l'insu du plus grand nombre.
Alors, un complot. Vous venez de définir, là, on voit vraiment le travail philosophique à l'œuvre, parce que l'air de rien, quand même, au moins on a une définition précise avec ça. Donc peut-être vous allez la décortiquer un petit peu.
Bah, après, on peut toujours le faire, mais je pense qu'il faut au moins ces éléments-là. Il faut qu'il y ait un petit groupe d'acteurs. Ça peut pas être la société dans l'ensemble qui conspire. Il faut qu'il y ait des conspirateurs. Il faut qu'ils s'entendent explicitement, parce que sinon, ça peut être une simple entente accidentelle ou un simple intérêt. Il faut que cette fin, d'un certain point de vue, soit éthiquement répréhensible, ou en tout cas qu'elle se distingue
frauduleuse,
de leur intérêt, de l'intérêt qui devrait être le leur, ou de leur intérêt affiché. Il faut que ce soit à l'insu du plus grand nombre. S'il n'y a pas un minimum de dimension de secret dans le complot, on a autre chose, on a quelque chose qui est d'une autre nature. Et ça, bon, on le trouvait dans les ententes intéressées qui m'ont intéressé en histoire des sciences. On le retrouve dans de nombreux autres domaines, et ça peut faire l'objet de descriptions empiriques. Et dans ce cas-là, c'est justement tout l'enjeu que d'arriver à décrire comment ces acteurs se sont mis ensemble, comment est-ce qu'ils sont parvenus à maintenir un secret minimal sur leur entreprise, à résister au décryptage opéré par d'autres agents. Et si on n'a pas cette explication, qui est là l'objet d'une enquête, dans ce cas-là, ça peut devenir inquiétant de faire des hypothèses de complot, parce que ça devient des hypothèses irresponsables épistémologiquement et peut-être assez vite moralement et politiquement. Il y a une charge de preuve, si vous voulez.
Il y a une charge
très
de preuve. Donc celui qui accuse d'un complot, finalement, n'a pas forcément tort, mais s'il ne se soumet pas lui-même à l'enquête à laquelle il est prétend appeler, en fait, c'est lui qui devient un danger public aussi, d'une certaine façon, Mathias Girel.
Oui, je pense, parce que ça, ben dans ce cas-là, ça revient en fait à renforcer une logique dans laquelle, quand vous avez des acteurs ou des institutions en face de vous, ben vous n'êtes pas sûr des fins qu'ils poursuivent quand ils font ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'en permanence, vous allez être amené à soupçonner qu'ils ne poursuivent pas réellement les fins qui semblent être les leurs ou qui devraient être les leurs.
Donc en fait, il y a deux erreurs finalement. C'est celle de soupçonner partout. C'est-à-dire il y a du complot global. Vous dites d'ailleurs, ça c'est la théorie de tout est conspiration dans la société ou dans l'histoire. On nous cache tout. Et puis, il y a peut-être la naïveté qui consiste à dire, face à cette hyperbole, ben non, avec nos procédures scientifiques, démocratiques, en tout cas dans un certain contexte moderne, disons, on a les moyens de on saurait s'il y avait des complots, et du coup, on est dans le déni un peu illusoire lui aussi. Presque aussi dangereux, finalement.
Oui, donc là, on pourrait dire que la première vision des choses, c'est une forme de vision théologique, il y a une sorte de grande loi unique qui guide l'histoire, et alors c'est le complot de telle ou telle puissance ou tel ou tel intérêt, donc c'est une philosophie de l'histoire. Richard Hofstadter dit, dans cette vision-là, qui appelle une vision paranoïaque, il dit, il y a même plus des complots dans l'histoire, c'est l'histoire elle-même qui est ou qui devient un complot. Ouais, ok, donc là, on voit bien, c'est une vision du monde, et dans ce cas-là, ben, il n'y a aucun moyen de la rectifier, de la réfuter, de l'affiner. De l'autre côté, du côté de la dénégation de tout complot, on voit bien, parce qu'il y a quand même, disons, certains complots ou certaines théories du complot plutôt récurrentes qui visent et qui ciblent certaines communautés. Là, on a vu dans l'enquête de l'IFOP et de la Fondation Jean Jaurès et de Conspiracy Watch publiée la semaine dernière, dans les 10 derniers jours, il y a eu plusieurs vagues, que l'idée d'un complot sioniste, donc, qui vise quand même et un État et une communauté, et bon, avec une porosité avec l'antisémitisme qui est assez fort, bon, c'est pas tout à fait anodin d'avoir ce type de théorie du complot. Donc je comprends qu'on puisse s'en inquiéter, parce que là, il peut y avoir des conséquences, voire des victimes. De même, il y a d'autres théories. Ils ont testé dans cette dans cette enquête les théories du grand remplacement qu'on n'a pas trop de mal à associer, disons, à une faction politique. Donc, je comprends qu'on puisse s'en inquiéter.
Mais vous, votre geste, Mathias Girel, c'est pas seulement de s'en inquiéter, c'est de montrer que ces théories du complot sont réfutables, parfois justement parce qu'elles elles ne se prêtent même pas à la réfutation, donc elles sont de purs fantasmes paranoïaques. Donc, on doit quand même les démonter au minimum, mais aussi de dire certaines autres accusations sont étayables, et en particulier quand elles jouent avec des données scientifiques disponibles, par des intérêts économiques aussi très clairs, très clairement assignés, pas fantasmés sur des, mais par exemple des entreprises comme on en parlait il y a un instant. Donc au fond, comment est-ce qu'on peut distinguer entre une théorie paranoïaque du complot qui vise en fait un but guerrier ou politique, et puis une théorie épistémologiquement fiable?
Ben, je pense que c'est pas quelque chose qu'on peut penser indépendamment d'un certain état de la société. Mmh. Et pour reprendre un des arguments disponibles, il y en a d'autres hein, pour critiquer les théories du complot, mais l'idée c'est que dans une société qui serait vraiment une société ouverte, c'est-à-dire avec un accès assez transparent à l'information, une diversité des sources, une véritable diversité des groupes de presse, avoir, disons, une bonne séparation des différentes branches de l'État, le fait que le pays...
Contre-pouvoir
bien établi, bien y compris journalistique, la presse, ça fait partie des contre-pouvoirs.
Tribunaux,
donc bonne séparation du judiciaire, de l'administratif et du politique. Le fait que le pays ne soit pas trop en guerre, parce que sinon il y a des impératifs de communication qu'on connaît dans tous ces moments-là d'histoire, et, voilà, qui nous éloignent de la transparence. Si on était dans cet État-là, dans ce cas-là, les hypothèses de complot deviennent très vite irrationnel, parce qu'il est très douteux qu'une telle hypothèse résiste très longtemps à l'examen si elle est fausse. Simplement, on n'est pas toujours dans ces conditions-là. Et donc, les théories du complot ne sont pas toujours faciles à déminer ou à dissiper, parce que précisément, si on est éloigné de ces conditions de transparence, c'est assez difficile.
Donc, finalement, vous dites, même si vous êtes philosophe des sciences, épistémologue avant tout, vous dites, moi, avec mes critères épistémologiques, je peux faire certaines choses, mais ça ne suffira jamais. Et il faut aussi des institutions démocratiques, des institutions qui permettent de démonter, d'utiliser la science à bon escient, si j'ose dire. La science toute seule ne suffira pas.
Non, la science et l'ensemble des autres savoirs. Je pense qu'il y a un savoir qui est produit dans l'enquête judiciaire, dans l'enquête journalistique. Et pour que ça permette de critiquer le pouvoir, les Américains diraient opposer la vérité au pouvoir, il faut effectivement que ces institutions aient une vraie force. Et c'est un de mes petits regrets par rapport à cette enquête qu'on évoquait, là, cette vague d'enquête sur le complotisme, qui est intéressante. Évidemment, on ne peut pas traiter toutes les questions, mais qu'il n'y ait pas des questions sur le contexte politique. Enfin, je ne veux pas noyer notre discussion dans le fait divers, mais finalement, l'affaire qui a occupé une bonne partie de l'été au sujet d'un garde du corps qui n'en était pas un et dont on se demande
petit
à petit...
avec autour du président de la République.
Voilà, ce qu'il faisait, comment il se retrouve en charge de certaines personnes assez proches de grandes puissances qui ont un intérêt géopolitique chez nous. Enfin, c'est des choses... d'un seul coup, qui peuvent déteindre sur d'autres croyances.
Ce que vous voulez dire, Mathias Girel, c'est qu'au fond, il est très difficile de circonscrire le rapport au complot, même comme épistémologiquement, c'est votre travail, c'est notre travail commun, d'ailleurs, tous les citoyens sont un peu des épistémologues, ou devraient l'être, mais quand il y a un complot qui apparaît, qui peut être réel, en tout cas un secret qui est dévoilé, caché par la raison d'État ou autre, il y a une tentation de généralisation, vous dire, ça peut déteindre, c'est contagieux.
Non, mais ça peut nourrir l'idée que, après tout, on ne sait pas. Ou ça peut nourrir, au lieu de nourrir quelque chose qui est une croyance. La croyance, ah tiens, il y a des complots de partout. Il y a eu des gens qui avaient une théorie complotiste de l'attentat de Strasbourg. Enfin, ce qui semble un peu extrême en disant...
Pour détourner l'attention des gilets jaunes.
C'était pour détendre. Il faudrait voir les moyens qu'il faudrait réunir.
Et quand même, c'est extrêmement grave, il faut le rappeler. Ça veut dire que l'État français aurait organisé un attentat.
Oui, et puis tous les gens qui étaient sur place, les services de secours. Des milliers de personnes seraient en train de mentir. Donc, ça on voit bien. Mais sur d'autres choses, c'est plus difficile de dire que la puissance publique communique toujours de manière transparente. Ça peut créer un doute. Moi, je regrette ces situations qui durent trop longtemps. et qui après peuvent nourrir une attitude, alors qui est pas forcément celle qui conduit à croire autre chose, mm-hmm. mais qui peut conduire à une forme de suspension du jugement, en disant bah finalement on sait pas sur toutes ces questions-là, on ne se prononce pas, c'est au-dessus de nos affaires, et je pense qu'on a intérêt quand même à toujours à garder ce lien par rapport à l'action de la puissance publique, pouvoir la critiquer, pouvoir lui opposer des faits, pouvoir la confronter à ses actions, parce que bah ça fait partie de la texture même du débat démocratique.
Mais alors justement Mathias Hirel, pour renforcer la résistance démocratique, vous, votre thèse, c'est qu'il faut être capable d'affronter les vrais dangers véritablement instrumentalisés par certaines puissances. Et par exemple, on a l'impression que, vous diriez peut-être, si on écoute vraiment certains lanceurs d'alerte, si on fait vraiment le travail sur certains vrais complots, c'est aussi une manière de désamorcer la paranoïa. C'est-à-dire, si on en traite réellement certains qui sont avérés, par exemple, en tout cas, des instrumentalisations de la science pour servir des intérêts économiques. Encore une fois, là, on est dans un débat peut-être local. C'est pas celui qui passionne le plus, mais finalement, ça a failli sur l'affaire du sang contaminé ou autre. Mmh. Ça a failli ruiner tout le système de santé français.
Mmh. Mmh. Oui, ça peut miner la confiance, en particulier dans le domaine sanitaire. Moi, je pense que, disons, dès qu'il y a un sujet d'inquiétude ou de vive controverse ou de vif débat, puisque c'est une des questions, je pense qu'il est intéressant que tous ceux qui sont convoqués parce que c'est leur compétence, c'est leur discipline, il est intéressant que ces personnes-là puissent nourrir et instruire le débat public. Je pense que, par exemple, ça a été relativement une erreur de laisser des vidéos sur YouTube d'un célèbre professeur qui multipliait les avertissements à l'égard des vaccins et qui a sans doute conduit à une réduction de la couverture vaccinale sans opposition sur le même terrain, par exemple. Mmh. Je pense que c'est pas uniquement avec des rapports des grandes académies qu'on respecte, parce qu'elles font un bon travail, mais je pense que il y a un moment où il faut descendre au niveau où les arguments sont échangés. Et je pense que c'est un des enjeux aujourd'hui. On a des débats, alors tous ne sont pas aussi policés, certains peuvent se tenir autour de ronds-points ou dans d'autres, Mais je pense que il y a une sorte de devoir, en fait, de nos professions scientifiques ou intellectuelles.
Si je compare ce que vous avez fait vous-même et d'autres, Mathias Hirel, avec les autres spécialistes de l'ignorance, qui sont aujourd'hui plus nécessaires que jamais, sur, par exemple, le tabac, là, vous venez de prendre l'exemple des vaccins. Si je compare ça avec un sujet, là aussi, très brûlant, en tout cas au début des années 80, quand est apparu le négationnisme sur l'extermination, sur les chambres à gaz. Certains historiens, en effet, au lieu de traiter ça seulement par le mépris, par exemple Pierre Vidal-Naquet, sont allés quand même très concrètement voir les arguments de Forisson, les arguments des autres historiens, ont fait un travail de vérité. N'ont pas traité ça simplement par une sorte de mépris d'en haut, justement, mais font la rigueur du savant, c'est ça que vous êtes en train de dire, qu'on soit historien, qu'on soit biologiste, médecin, épistémologue, c'est la seule arme réelle avec les institutions démocratiques.
Ben, je pense que tout ce qui permet de manifester la productivité d'un savoir ou sa solidité est bon.
Enfin, et inversement, la vacuité d'un autre.
Et justement, la vacuité d'une prétention. C'est en montrant la solidité de ce savoir qu'on peut montrer la vacuité des prétentions. Vous avez évoqué Pierre Vidal-Naquet, c'est un excellent exemple. Frédéric Worms, il y a d'autres domaines, même s'ils sont plus prosaïques. On peut penser à la salle de classe, quelqu'un qui a des oppositions fortes à la théorie de l'évolution. Ben, le professeur, s'il maîtrise suffisamment sa discipline, peut s'en servir comme outil pédagogique en disant, si on nie cette hypothèse, on ne comprend pas, par exemple, la résistance de telle ou telle bactérie, ou, je n'évoque même pas des croyances encore plus farfelues comme les terres platistes,
qui sont censés croire à la terre plate. C'est drôle, j'allais vous le dire, puisque au Brésil, même, une ministre, je crois que la ministre de l'éducation fait partie de ce groupe mystique qui pense que la terre est plate et qui ne se contente évidemment pas de dire que la terre est plate, mais qui il y a un complot pour nous faire croire qu'elle ne l'est pas. Et donc là, Mathias Hirel, qu'est-ce qu'on répond là? On est professeur, mais on a un ministre en plus. Donc il y a le poids de l'institution qui s'appuie, qui appuie les théories que la science réfute.
Mais déjà, on est bien content de ne pas être enseignant-chercheur sous une telle ministre. Alors moi, j'ai vu plusieurs versions de cette histoire, soit c'était au Canada, soit au Brésil peut-être. Mais dans ce cas-là, je pense que c'est intéressant de poser des questions qui peuvent être naïves, mais qui ne le sont pas. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites de la circulation des eaux dans l'océan austral? Comment vous l'expliquez si vous êtes terre-platiste? Comment vous expliquez certaines éclipses? Et l'ombre, quelle est alors l'ombre de la Terre? Et ce qu'il faut bien voir, c'est que si la Terre était plate, et donc un disque, il y aurait forcément un centre absolu de la Terre. Alors, quel est le pays qui a l'insigne honneur d'être au centre de la Terre? Et je pense qu'il y a des, enfin, il y a des tas de choses d'un seul coup qui, c'est intéressant de montrer que des objets quotidiens ou des trajets quotidiens qu'on peut faire deviennent incompréhensibles.
Donc, vous seriez sur le débat sur les faits, Mathias Girel, mais dans votre, votre livre où vous montrez finalement comment fonctionnent les marchands de doute, ce que vous appelez les marchands de doute, les, ceux qui entretiennent l'ignorance, et aussi des stratégies qui sont très perverses. On fait, on produit des, on met en cause l'honnêteté des autres savants, on fait de la fausse science, on mime la science. Donc il y a aussi des stratégies rhétoriques. Et est-ce qu'il ne faut pas être un peu aussi dans les pratiques de langage? Vous parlez aussi beaucoup des actes de langage. Est-ce qu'il ne faut pas aussi analyser le discours de ces marchands de doute?
Tout à fait. Je pense que ça, ça fonctionne assez bien avec ceux qu'on peut appeler en anglais les deniers, c'est-à-dire les dénégateurs. Je préfère ce terme-là à négationniste. C'est-à-dire que si vous voyez qu'un acteur, un agent, pendant 20 ans, ne fait que produire des objections au rapport du GIEC ou à tel ou tel rapport d'agence sanitaire, ça vous dit quelque chose sur son style d'argumentation. Et si cette personne-là n'a produit aucune connaissance nouvelle entre-temps, n'a pas élucidé de phénomène nouveau, bah, le fait d'être attentif à ce que cette personne fait ou son institution fait, en plus de ce qu'elle dit, bah, évidemment, vous renseigne. Il y a fort à parier pour que ce soit une entreprise voilà, de chercher à ralentir. Quoi, le,
donc c'est là que, Mathias Girel, on retrouve votre point de départ, c'est-à-dire votre approche pragmatiste, qui ne veut pas dire que la réalité pour vous n'existe pas, mais qu'il faut regarder les pratiques concrètes qui tournent autour de la vérité, du savoir et de l'ignorance, et que ce sont ces pratiques qui doivent nous servir d'indice aussi dans le débat public, en fait. On doit avoir cette approche des pratiques.
Oui, il faut comprendre ce que les gens font quand ils disent ce qu'ils disent. Ou quand il publie ce qu'il publie. Alors, on ne devrait pas se poser cette question, normalement, parce qu'on devrait dire un écrit scientifique ou quelque chose qui a trait au savoir, ben on devrait simplement prendre connaissance de l'information, et les vraies ou fausses, et les justifier ou non. Il se trouve que, en raison de ces épisodes historiques, on est parfois conduit à se poser cette question de ce que font les gens quand ils publient quelque chose. Est-ce qu'ils concourent vraiment à l'accroissement de la connaissance, ou est-ce qu'ils sont motivés par autre chose? Alors, c'est toute la thématique des conflits d'intérêts, par exemple. C'est une question qu'on peut pas évacuer. On préférerait ne pas avoir à se la poser, à raisonner uniquement en termes de vérité et de réalité. Mais il me semble que dans l'état actuel du débat, on ne peut pas évacuer cette question-là.
Vous dites que c'est seulement dans l'état actuel du débat, Mathias Girel, mais est-ce que c'est pas la condition humaine aussi qui fait que nous sommes des sujets connaissants, mais aussi des sujets sociaux, et que dans tout énoncé, il y a un peu des deux?
Ben oui, dans tout énoncé, évidemment, on fait quelque chose. Là, l'idée, c'est plutôt, est-ce qu'on fait autre chose que ce qu'on est censé faire, ou que ce qu'on, que l'action qu'on affiche, ou l'action qui devrait être la nôtre. Et, en un sens, vous avez...
Est-ce qu'on peut mener un double jeu, quoi, en fait?
Oui, tout à fait. Mais, ben justement, Frédéric Worms, si on prend l'histoire de l'analyse de l'action et de l'intention, il est extrêmement difficile d'attribuer des intentions. C'est une aventure et c'est une pratique humaine. Si on s'arrête trop bas au niveau des gestes que font les gens ou simplement les simples actions musculaires, on n'a pas décrit l'intention. Si on remonte trop haut, c'est-à-dire que derrière une action, on va toujours chercher une intention cachée.
On
retombe dans cette logique complotiste qu'on évoquait tout à l'heure. Il y a un bon niveau auquel se situer, et on peut être aidé par les... par les praticiens d'une discipline. Les historiens peuvent nous aider, les différentes disciplines des SHS, des sciences humaines et sociales aussi, peuvent y aider parce qu'elles nous donnent des outils pour décrire les pratiques des acteurs.
Décrire les pratiques des acteurs, Mathias Girel, vous êtes confiant quand même dans la capacité des citoyens, aidés par ceux qui analysent les discours et par leur bon sens aussi, par leur pratique des uns et des autres dans la vie courante, j'allais dire, pour résister aux tentations de dévier le débat en un mot, parce que malheureusement notre discussion est déjà au terme de son temps.
Je pense que c'est l'enjeu de l'époque. Il faut arriver à réinscrire, à reterritorialiser les débats dans des lieux qu'on maîtrise. C'est-à-dire sans qu'il y ait trop de pression, par exemple, des réseaux sociaux qui s'exercent, ou de tuyaux, ou de choses qui fonctionnent à la communication virale, à la viralité. Et après tout, c'est peut-être que ces débats publics y aideront, ou peut-être tout simplement que les conversations qui sont politiques, éthiques, citoyennes, que les gens peuvent avoir autour d'eux, peuvent y concourir. Mais je pense que ça aura une dimension locale avant tout.
La résistance par la conversation. Merci de l'avoir partagé ce soir avec nous, Mathias Girel.
Merci beaucoup, Frédéric Worms.
Matière à penser, c'était notre troisième rencontre sur les conditions du débat, le savoir, l'ignorance et la discussion avec Mathias Girel. avec et grâce aussi à Cédric Chatelus, Joséphine Lampreya, Sandrine Chaperon, Catherine Donnet, Anne-Pascale Desvignes et Frédéric Vorms. Je vous donne rendez-vous demain, toujours sur le même sujet, avec l'épreuve du peuple et du gouvernement du peuple et Pierre-Henri Tavoyot. À demain. We'll be right back.